prévu, et Jacques François ensuite.
Bien, merci de me donner la parole, Christian. Vous m'entendez bien, oui?
Très bien.
Oui. Désolé d'intervenir sans visage. Tu n'as pas parlé assez longtemps, Christian, pour me permettre de résoudre mon problème d'accès à la caméra. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Donc, effectivement, je vais essayer d'accomplir la mission que m'a confiée Christian de circonscrire un petit peu les termes du débat, ou en tout cas de préciser un certain nombre d'objets, les objets dont nous discuterons au cours de ces séances. Et puis, de pointer sur quelques usages de ces objets IA algorithmes dans le monde public, mais je ne m'étendrai pas trop parce que je pense que Jacques-François complétera certainement. Et puis, je donnerai surtout quelques indications sur ce qui me semble être les enjeux principaux en la matière. Sans évidemment non plus aucune ambition de complétude, là c'est vraiment une séance introductive. Alors, dans le titre de ce séminaire, il y a IA et algorithmes, les mots-clés qui sont utilisés à foison aujourd'hui, y compris dans les médias, sans être toujours extrêmement bien définis ou compris. Alors, juste un rappel pour commencer. Moi, je préfère le terme algorithme, qui parle plus en tant qu'informaticien, je commencerai par là. Pour nous, en informatique, un algorithme, disons que c'est simplement une suite d'étapes ou de règles qu'on applique pour résoudre un problème. Là, il faut voir que, d'un point de vue opérationnel, disons, il y a deux modes de fonctionnement très différents sur lesquels on reviendra sûrement au cours de ces séances. On peut soit inscrire la logique de l'algorithme directement dans le texte de l'algorithme ou dans le programme, il est mis en œuvre par un programme. Donc, pour prendre un exemple, si on veut un algorithme pour déterminer si une personne est adulte ou pas, on va écrire une règle du genre comparer l'âge à la valeur 18. Si plus grand qu'eux, on dit oui. Si plus petit, on dit non. Donc ça, c'est disons la programmation standard, habituelle, traditionnelle. Il y a une deuxième façon de faire, dont on reparlera forcément, c'est l'apprentissage. Dans ce cas-là, au lieu de faire ce que je viens de dire, on va donner au système, on va l'alimenter avec des données du genre, par exemple, 12. 12, eh bien non. C'est pas une valeur qui correspond à un adulte. C'est pas un âge qui correspond à un adulte. 17, non. 55, oui. 36, oui. Et si on en donne assez, eh bien, le système va être capable de produire ce qu'on appelle un modèle, un instrument, disons, pour décider qui reviendra finalement à la même chose que ce qu'on aura inscrit en comparant à une valeur 18. Donc là, vous voyez deux grandes familles d'emblée qu'il faut bien avoir en tête. Alors si on transcrit ça à l'IA, l'intelligence artificielle, disons que c'est un peu une expression fourre-tout qu'on utilise pour désigner en gros toutes les tâches qui relèvent habituellement l'intelligence humaine. Donc c'est très large. Mais d'un point de vue concret, d'un point de vue technique, ça se traduit par des algorithmes, comme je viens de l'évoquer là. Et souvent, on a aussi tendance, en tout cas dans la presse, à confondre intelligence artificielle et apprentissage. On a aussi l'intelligence artificielle qu'on appelle quelquefois symbolique, où on va définir explicitement les règles. Alors, pour l'apprentissage que je viens d'évoquer, qui est ce qu'on entend souvent par IA, ce qu'il faut bien voir là, c'est que on a trois composantes majeures. Il y a évidemment les données d'entrée, ce que j'évoquais il y a un instant. Il y a la technique qui est utilisée pour apprendre. Il y a différentes techniques. Et puis, il y a la manière de représenter le résultat. Là aussi, il y a différentes façons. Les données, évidemment, c'est le point de départ. Donc, c'est quelque chose qui transparaîtra aussi au cours de nos réunions et déjà aujourd'hui. Les Anglais disent une expression qui revient à dire en gros que si on a n'importe quoi en entrée, on va avoir n'importe quoi en sortie. C'est ce qu'on dit en anglais, garbage in, garbage out. Et il faut bien avoir ça en tête. Si les données ne sont pas suffisamment nombreuses, ne sont pas de bonne qualité, représentatives, eh bien le résultat risque d'être inutilisable ou mauvais. On y reviendra. Ou biaisé, on reviendra là-dessus également. Donc ça, c'est le premier point, les données d'entrée. Deuxième point, le procédé d'apprentissage. Là aussi, il y a plusieurs façons de faire. Le plus courant, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. C'est ce que j'évoquais il y a un instant, où on dit, eh bien, effectivement, 17, c'est pas un âge qui correspond à un mineur. Donc, il faut associer 17 à un majeur. Il faut associer 17 à mineur. Il faut associer 46 à majeur. Et si vous analysez des images, eh bien, il faut analyser telle image à, faut associer telle image à un chat, telle image à un chien, si vous voulez que votre système les reconnaisse. Donc, ça peut être assez fastidieux. Sinon, on peut aussi recourir à un apprentissage non supervisé, auquel cas, le système va lui-même dégager des groupes parmi les données qu'on lui donne à l'entrée. Donc, par exemple, distinguer le groupe d'images qui représentent des chats et ceux qui représentent des chiens, ou les images qui représentent des tumeurs cancéreuses et des images qui représentent des tumeurs qui ne sont pas cancéreuses. Troisième mode d'apprentissage, qu'on évoque aussi quelquefois, c'est l'apprentissage continu. Dans ce cas, le modèle évolue en permanence en fonction de l'utilisation de l'outil. Et en général, ce qu'on utilise là, ce sont des théories qui relèvent de la psychologie animale. C'est-à-dire qu'on va fournir des récompenses positives ou négatives en fonction de la manière dont se comporte le système. Donc, par exemple, pour un robot, s'il prend les bonnes directions, s'il effectue les bonnes actions, on va le récompenser comme on récompenserait un animal qu'on veut dresser. Pour ce qui est d'un logiciel, l'application phare, ce sont les jeux de go, jeux d'échecs. C'est comme ça qu'on les entraîne. On peut jouer l'un contre l'autre, même dans certains cas. Donc ça, c'est la deuxième composante, le système pour réaliser l'apprentissage. Et troisième composante, le résultat. Tout à l'heure, j'évoquais des règles du genre si plus grand que 18 à l'heure adulte. Alors ça peut être ça, le résultat de l'apprentissage. Ça peut être aussi ce qu'on appelle des arbres de décision, donc des représentations sous forme d'arbres de la manière de prendre une décision. Donc un nœud de l'arbre, ce sera par exemple, si l'âge est plus grand que 18, alors on va à droite, sinon on va à gauche. Bon là, c'est une décision qui est très simple, mais en général, ce sera plus compliqué. Si on veut décider si on libère, par exemple, un détenu, eh bien, la question, ça pourrait être est-ce qu'il a commis un crime, est-ce qu'il a commis une violence, est-ce qu'il a récidivé, et ainsi de suite. Alors, un autre type de résultat de cet apprentissage, ça peut être un réseau de neurones. Donc ça, c'est un type de modèle dont on parle beaucoup aujourd'hui. On parle beaucoup notamment des réseaux de neurones profonds. Alors, un réseau de neurones, il faut voir que ce sont des neurones artificiels, donc ce sont des objets qui ne reproduisent pas du tout de véritables neurones. Ce sont des objets très simples, en fait, qui prennent juste des 0 et des 1 en entrée et qui rendent en sortie 0 ou 1. Mais la particularité, c'est qu'il y en a beaucoup. Il peut y en avoir des centaines de millions. Et ils sont organisés en couches. Et en général, une couche représente un niveau d'abstraction. Donc, typiquement, on les utilise pour l'analyse d'images, pour l'analyse de texte, de son. Et donc, pour une image, par exemple, eh bien, première couche, ça pourrait être les pixels. Deuxième couche, eh bien, on pourra dégager des lignes, après des formes géométriques, après des ébauches d'objets. Et la dernière couche, ça pourrait être la réponse chien ou chat. Alors, j'ai dit qu'ils étaient adaptés à la reconnaissance d'images ou de son. Je n'ai pas dit pourquoi, en fait. Et là, je voudrais dire un mot tout de même de la manière dont on caractérise ces différents systèmes d'apprentissage. La première façon, ce qu'on vise habituellement, c'est ce qu'on appelle la précision. Et par exemple, quand on fait de la reconnaissance ou de la prédiction, on caractérise souvent la précision par ce qu'on appelle les faux positifs et les faux négatifs. Donc, par exemple, s'il s'agit de déterminer si une cellule est cancéreuse, eh bien, les faux positifs, ce seront les cellules qui auront été désignées cancéreuses à tort. Et les faux négatifs, eh bien, c'est l'inverse. Si on cherche à déterminer si un détenu est à risque ou pas, eh bien, le faux positif, c'est si on le désigne à risque et qu'en fait, il se comporte bien par la suite. Donc ça, c'est le premier critère qu'on utilise. Le deuxième qui est important à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle quelquefois la robustesse. Donc il ne faut pas simplement qu'il soit précis, mais il faut qu'il soit précis sur l'ensemble des données, dans la plupart des cas, ou dans tous les cas, idéalement, qu'on ne puisse pas l'induire en erreur facilement. Ça, c'est un problème des systèmes à base de réseaux de neurones. On a montré qu'on pouvait facilement les induire en erreur. Donc, par exemple, on peut changer quelquefois quelques pixels d'une image. Imaginons qu'on parle d'une image de chien. Le système la reconnaît parfaitement. Vous changez quelques pixels. Pour un humain, ça ne change rien. C'est exactement la même image. Il ne voit pas la différence. Mais pour un système, bien, ça va tout changer. Tout d'un coup, il va vous dire c'est une grenouille ou c'est un chat. Un système qui repose sur l'IA, et en particulier sur les réseaux de neurones, n'a pas de sens commun. Donc, il peut faire des erreurs graves. Hein, si un tel système est utilisé dans un véhicule autonome et qu'il reconnaît ainsi les panneaux de circulation, eh bien, on pourra lui faire passer un panneau de sens interdit pour un panneau de sens unique. Et il y a eu des expériences qui ont été faites qui l'ont montré. Une autre qualité essentielle d'un tel système, c'est la représentativité, ou pour dire autrement, l'absence de biais. On y reviendra très certainement, mais ces biais, quand ils existent, peuvent conduire à des discriminations. Donc il faut s'arranger pour que les données d'apprentissage soient représentatives, donc qu'il n'y ait pas, par exemple, que des hommes entre 30 et 50 ans, de couleur de peau blanche, parce qu'alors, quand on utilisera en conditions réelles le système, eh bien, il fonctionnera évidemment beaucoup mieux pour ces personnes-là. Et ça, c'est un problème qui est très difficile à résoudre. Et il y a des systèmes qui sont utilisés aujourd'hui qui sont clairement biaisés, qui comportent des discriminations. Par exemple, un logiciel qui s'appelle COMPAS, COMPAS, qui est utilisé aux États-Unis dans pas mal de tribunaux, qui a été utilisé dans des millions de cas, eh bien, on a montré qu'il discriminait, qu'il traitait différemment les personnes. Alors, en l'occurrence, là, ce sont des détenus qui font des demandes de libération, des Afro-Américains que des personnes de couleur de peau différentes. En gros, il y avait deux fois plus de faux positifs chez les Afro-Américains. Deux fois plus. Donc, ça signifie qu'il y avait deux fois plus de risques, qu'on considère que ce sont des gens qui vont récidiver, que pour des détenus de couleur de peau blanche. Donc on y reviendra, je ne m'étends pas là-dessus, mais le dernier point qui me paraît très important et en lien avec le précédent, c'est la question de l'intelligibilité des résultats. Parce qu'en plus, le système que j'évoque là, c'est un système propriétaire dont les tribunaux et même n'importe quel, aucun service public américain n'y a accès. Donc on ne peut pas savoir comment fonctionnent ces boîtes noires. Évidemment, dans certains domaines, ce sont des conditions qui sont difficiles à accepter. Là, j'ai cité la, J'ai cité la justice, mais on pourrait parler également du milieu médical. Là, il y a certains exemples dans le domaine qui font un peu peur. Il y en a un qui n'est pas récent, mais qui est malheureusement d'actualité. C'est un cas d'un hôpital américain qui souhaitait utiliser un système d'intelligence artificielle pour orienter les patients qu'il appelait le service de pneumologie. L'idée étant que les patients qui présentent un moindre risque, on leur conseille plutôt, on les oriente plutôt vers un traitement à domicile parce que c'est plus avantageux, ça coûte moins cher d'une part, et en plus, ils ont un moindre risque de contracter une maladie nosocomiale. Donc c'est mieux pour tout le monde. Par contre, s'ils présentent un risque important, il faut les traiter à l'hôpital. Donc on a testé dans cet hôpital plusieurs systèmes d'apprentissage automatique et on en avait retenu un, le plus précis, reposé justement sur les réseaux de neurones. Mais on s'est aperçu quand on a commencé à l'utiliser qu'il orientait systématiquement les passagers, pas les passagers, les patients asthmatiques vers un traitement à domicile. Donc, il considérait que les patients asthmatiques étaient des patients à moindre risque. Donc, évidemment, on a arrêté tout de suite. Les médecins trouvaient ça inacceptable. Et ce qu'on a pu constater en regardant de plus près la base de données qui avait été utilisée pour apprendre ce système, c'est qu'en réalité, il reflétait bien la réalité. Effectivement, dans le passé, dans la base de données, les patients asthmatiques étaient à moindre risque dans le sens où le taux de mortalité chez eux était plus faible. Mais ce que le système n'avait pas pris en compte, c'est que dans le passé, quand ces patients appelaient le standard et qu'ils disaient qu'ils étaient asthmatiques, on les orientait immédiatement vers un système, vers un traitement de soins intensifs. Et donc finalement, en fin de compte, effectivement, il s'en tirait plutôt mieux que la moyenne. Mais vous voyez que là, l'algorithme, d'une part, était induit en erreur parce qu'il ne prenait pas en compte les bons paramètres dans la base de données. Mais par ailleurs, il aurait été catastrophique de l'utiliser parce que c'était une boîte noire. Donc l'hôpital en question ne l'a pas utilisé, a plutôt utilisé un système un peu moins précis, mais dont on comprenait le fonctionnement. Donc un système à base de règles. Alors, je reviendrai au cours des séances suivantes très certainement sur les solutions à apporter à ces problèmes, puisque en réalité, bon, ce sont des problèmes qui existent toujours, qui ne sont pas résolus, même d'un point de vue théorique. La discrimination, c'est un problème compliqué. Les explications, c'est un problème compliqué. Je disais en préambule que c'était d'ailleurs notre sujet de recherche, un sujet de recherche de plus en plus actif. Je veux simplement dire à ce stade que ce n'est pas forcément perdu pour autant, mais il faut bien comprendre qu'il s'agit là d'un enjeu important. Alors, donc je vais peut-être, je comptais parler un petit peu des usages de l'intelligence artificielle dans le domaine public, mais je ne sais pas combien de temps il me reste. Combien de temps est-ce que vous me donnez encore,
5 minutes.
Christian?
5 minutes.
Combien?
5.
5 minutes. Bon, donc je vais juste lister les têtes de chapitre, je ne vais pas détailler. Si vous voulez des détails, je pourrais en donner après.
D'accord.
Mais disons que l'intelligence artificielle et les algorithmes, j'ai plutôt envie de dire les algorithmes d'aide à la décision. C'est plutôt ça qui me paraît intéressant, indépendamment des moyens techniques qui sont utilisés derrière. Ben, ils sont utilisés dans beaucoup d'endroits en général et dans le domaine public en particulier. On n'y pense pas toujours parce que ça devient presque. Soit naturel, soit comment dirais-je caché aux citoyens. Ça se passe dans les serveurs, disons, des ministères. Mais on en a parlé évidemment quand il s'est agi d'orienter les candidats. Les étudiants qui voulaient postuler dans les universités. On a parlé beaucoup d'APB il y a quelques années. Maintenant, on parle de Parcoursup. Bon, c'est un algorithme. Enfin, c'est plusieurs algorithmes. qui sont désormais disons, moins opaques qu'ils n'ont été dans le passé. D'ailleurs, c'est un bon exemple de rejet d'un algorithme, en l'occurrence APB, il y a quelques années, en particulier parce qu'il avait été jugé opaque. Donc ça, c'est le domaine de l'enseignement, mais ce n'est pas seulement pour les étudiants. La mutation des enseignants, par exemple, est traitée de cette façon-là. Les affectations dans les lycées sont traitées de cette façon-là. Dans le domaine de l'emploi, il y a des outils qui sont utilisés pour mettre en relation les demandeurs d'emploi et les profils d'emploi. Dans le domaine de la fiscalité, il y a des outils qui sont utilisés pour guider les services de contrôle fiscaux vers les profils les plus, jugés les plus à risque. Dans le domaine de la police, on utilise, alors aux États-Unis, il y a PredPol, dont on a un peu parlé, mais en France, il y a aussi quand même des outils qui sont utilisés, qui sont peut-être moins intrusifs que PredPol, mais il y a un système qui s'appelle PAVED, qui est utilisé par la gendarmerie nationale dans le but d'anticiper les cambriolages et les atteintes aux véhicules. Dans le domaine de la justice, on commence aussi à utiliser des algorithmes pour prédire, par exemple, le résultat, enfin, les décisions d'un juge. Il y a des résultats qui ont montré que, par exemple, on pouvait prévoir les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme avec un taux de réussite qui approche les 80%. Et il y a des sociétés, ce qu'on appelle les legal tech, qui se développent aujourd'hui pour aider soit les avocats, soit les juges à prendre des décisions. Donc, je vais m'arrêter là pour cette liste. On pourra en citer bien d'autres, mais on y reviendra au cours de ces séances. Donc, pour conclure, ce qui me paraît être les enjeux majeurs, alors, d'abord, la protection des données personnelles et de la vie privée. J'en ai pas parlé pour l'instant, mais Christian l'a évoqué en préambule. Évidemment, quand on traite des bases de données d'apprentissage, en général, ce sont des bases de données personnelles. Et si on parle du médical, par exemple, ce sont même des bases de données extrêmement sensibles. Et c'est un sujet, évidemment, et malheureusement d'actualité, puisque dans l'avenir, et même déjà aujourd'hui, il se pose la question du partage des données pour faire en sorte qu'on puisse analyser la propagation du coronavirus. Aujourd'hui, on est plutôt protecteur en France sur ces sujets-là, mais se posent des questions, et aussi à l'échelon international. Est-ce qu'on va partager ou pas ces données-là pour pouvoir apporter des réponses? Deuxième enjeu majeur, à mon avis, c'est la légitimité. Est-ce qu'un système donné, par principe, est légitime ou pas? Par exemple, je parlais de justice. Est-ce que si on est capable de prévoir le niveau de risque présenté par un prévenu ou un détenu, il faut tenir compte dans une décision, dans un jugement, ou pas? Est-ce qu'il faut condamner éventuellement quelqu'un plus lourdement pour des faits qu'il n'aurait pas commis, mais qu'un algorithme dit qu'il pourrait commettre? Et si oui, en plus, quels paramètres, quelles données est-ce qu'on peut prendre en compte pour le décider? Est-ce que, si par exemple, cette analyse fonctionne en analysant les tweets ou le comportement sur un réseau social de la personne en question, est-ce que le fait d'avoir de mettre beaucoup de points d'exclamation ou de points d'interrogation dans ses tweets, est-ce que ça peut être une bonne raison pour être condamné plus lourdement le jour où on passe devant un juge? Donc, légitimité. Troisième critère, enjeu, évidemment, c'est la fiabilité, l'efficacité. Vous l'avez déjà évoqué avec les faux positifs, les faux négatifs, il y en aura toujours. Donc, qu'est-ce qui est jugé comme acceptable ou pas? Discrimination, biais, évidemment, c'est un enjeu majeur. Là aussi, qu'est-ce qui est acceptable ou pas? Qu'est-ce qu'on appelle déjà une discrimination? Parce qu'il y a la discrimination telle qu'elle est définie par le droit, mais l'usage de ces algorithmes-là peut entraîner d'autres types de discrimination, discrimination qui ne correspondent pas à des catégories identifiées dans le droit. On peut discriminer sur des tas de critères, l'arrondissement dans lequel vous habitez à Paris, selon que vous soyez gaucher ou droitier, enfin, tous critères qui ne sont pas, au regard de la loi, des critères de discrimination. Et dernier point, sur lequel je vais conclure, parce qu'il me paraît aussi vraiment fondamental, peut-être encore, oui, ils sont tous fondamentaux, mais l'intelligibilité que j'évoquais tout à l'heure. Parce que sans intelligibilité, sans compréhension des résultats d'un système, eh bien là, il y a vraiment un problème de contrôle, en fait, d'autonomie du décideur. La CNIL a intitulé, c'était je crois il y a 2 ans, un de ses rapports, « Comment permettre à l'humain de garder la main sur une décision ?» Et je crois que là, il y a un véritable enjeu. Soit ces outils sont des outils, disons, d'émancipation, d'empowerment, comme on dit en anglais, et ça ne peut être le cas que si on comprend la logique sous-jacente, ou alors, sinon, ils peuvent devenir des outils de plutôt d'aliénation, de réduction des capacités de choix des individus et aussi de la puissance publique. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai un peu même débordé sur mon temps de parole.
Merci
pour votre écoute et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je n'ai pas trop surveillé si des mains se levaient, mais je compte sur vous, Amine et Christian, pour le faire.